Je vous invite à tourner dans le livre de Daniel. Nous allons commencer une série, une nouvelle série dans Daniel. Et ce matin, j'aimerais vous parler d'un homme qui ressemble, dont le profil ressemble un peu à Joseph, que nous avons vu il y a quelques semaines dans l'Ancien Testament. Joseph, Dieu avait un plan pour lui. Nous allons voir que Daniel et ses compagnons, Dieu avait un plan pour lui. Et j'aimerais parler, on a parlé de la sainteté de Dieu, on a parlé de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu ce matin. J'aimerais simplement ouvrir une parenthèse à quelque part dans le message pour parler de la souveraineté de Dieu. Peu importe ce que les hommes décident, peu importe ce que les hommes complètent, Dieu est souverain, il a un plan établi depuis toute éternité. Et même les méchants accomplissent, sans le savoir, accomplissent parfaitement le plan de Dieu. Dieu est en contrôle de toutes choses. Est-ce que vous êtes amen à ça? Dieu est en contrôle aussi de votre propre vie. Il aimerait bien que vous puissiez, en 2019, c'est une des résolutions, en tout cas qu'on devrait tous prendre, ressembler à la personne de Jésus-Christ. À travers nous, il veut, comme les enfants, que nous puissions partager sans arrière-pensée, sans penser ce que les gens puissent penser de nous, que nous puissions partager l'Évangile de Jésus-Christ. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec les enfants, heureusement qu'ils ne se posent pas de questions à savoir ce que les gens pensent quand ils leur parlent. C'est vrai, hein? C'est vrai, non? Oui, c'est vrai. Ouais. Ça m'est déjà arrivé de piéger, pas de piéger, mais de rendre mes parents fort mal à l'aise parce que moi, je disais tout ce que je pensais. Et à un moment donné, il y a un monsieur qui sonnait à la porte chez moi. J'avais 4-5 ans. Ma mère était au deuxième. Elle a dit, tu veux aller répondre? Alors, je suis allé. Et elle m'a dit, qui c'est qui est à la porte? Moi, je ne connaissais pas son nom. Alors, je lui ai dit, c'est le monsieur au gros nez. Alors, je ne me suis pas posé de question ce que lui pensait quand je lui ai dit ça. Mais ma mère est descendue vite en courant quand elle a entendu que j'appelais le monsieur par son gros nez. Et c'est béni parce que les enfants partagent l'Évangile, partagent l'Évangile sans se dire, est-ce que cette personne-là va continuer à me parler? Est-ce que cette personne-là va me rejeter si j'annonce Jésus-Christ? Ils délivrent le message qu'ils ont entendu et c'est magnifique. Dieu accomplit des miracles à travers nos enfants. Vous êtes amen à ça. L'étude du livre de Daniel. Pourquoi étudier le livre de Daniel? Voici trois réponses à cette question. Premièrement, la situation de Daniel ressemble étrangement à la nôtre. Pendant la majeure partie de sa vie, Daniel a fait partie d'une minorité de croyants appartenant à une culture majoritairement païenne. À partir de son adolescence et ce jusqu'à sa mort, c'est-à-dire plus ou moins vers l'âge de 90 ans, il a servi sous plusieurs souverains, sous plusieurs rois païens. Il n'a jamais connu le luxe de vivre dans un pays entouré de gens qui partageaient la même foi que lui. À partir de ce qu'il a vécu, nous allons découvrir de nombreux principes qui nous aideront à vivre pour Christ dans un monde rempli de gens qui ne partagent pas notre foi. Deuxièmement, pourquoi étudier les livres de Daniel? Parce que nous pourrions voir les prophéties de Daniel s'accomplir bientôt sur nos propres yeux. Est-ce que vous êtes amen à ça? Frères et sœurs, le contexte dans lequel on vit, le monde dans lequel on vit, ressemble étrangement au contexte dans lequel Daniel et ses compagnons vivaient. Un monde païen qui cherchait à les déconnecter finalement, à leur enlever leur culture juive qu'ils avaient, comme dans le monde dans lequel on vit, qui cherche à nous enlever, nous voler notre culture chrétienne, pour venir nous imbiber d'une culture qui est loin de correspondre finalement aux lois de Dieu. Frères et sœurs, nous avons dans le ciel un Dieu qui dévoile les mystères. C'est lui qui nous fait connaître ce qui arrivera dans l'avenir. Ce livre est rempli de rêves, de visions et de prophéties concernant la fin des temps. Et dans les semaines à venir, nous découvrirons une étonnante similitude qui existe entre les paroles de Daniel et ce qui se passe autour de nous en ce début du 21e siècle. Troisièmement, pourquoi lire le livre de Daniel? Parce que le Dieu de Daniel est aussi notre Dieu et il est toujours sur son trône. C'est probablement l'enseignement le plus important de ce livre. Dieu est en contrôle de tout ce qui existe dans l'univers. C'est simple et clair. Il règne sur les nations, il règne sur les familles et sur les individus. Il est en contrôle du passé, il est en contrôle du présent, il est en contrôle du futur. Il contrôle les bons et les mauvais jours, les jours de bonheur et de malheur, les moments de joie et de tristesse, les grandes victoires et les défaites aussi humiliantes. Il est en contrôle quand un enfant naît et il est en contrôle quand la mort frappe à votre porte. L'étude de ce livre devrait augmenter notre confiance en la souveraineté d'un Dieu qui ne fait pas d'erreur. Dieu ne se trompe jamais. Le monde est sous l'influence de l'adversaire, mais il demeure sous le contrôle de notre Seigneur. Il est le Dieu qui est le maître des royaumes humains, qui donne le royaume à qui il veut. Ça, c'est le verset central du livre de Daniel. Ce verset que je vais vous relire, il est le Dieu qui est le maître des royaumes humains, qui donne le royaume à qui il veut. Vous allez le retrouver à plusieurs reprises, dans différents endroits dans le livre de Daniel. C'est vraiment le verset clé de ce livre. Quand je me trouve dans mon bureau à une certaine période de l'année, il arrive que le soleil tape directement dans ma fenêtre, laissant passer un rayon de lumière. Si je regarde à côté de ce rayon de lumière, je ne vois rien de spécial. Hein, vous ne voyez rien de spécial ici. Mais s'il y avait un rayon de lumière qui rentrait dans l'église ce matin, vous verriez la poussière en suspension, finalement, dans cette partie de l'église qui est éclairée. Est-ce que je respire cette poussière? Bien sûr, frères et sœurs. Extraordinaire. Vous comprenez pourquoi il y a des gens qui portent des masques maintenant, hein? Je suis allé magasiner cette semaine et il y avait un couple qui portait ce qu'on appelle, je ne sais pas, je ne suis pas dans le milieu hospitalier. Marianne, qu'est-ce qu'on m'en appelle ça? Un masque, voilà. Voilà, un masque. Probablement pour éviter d'être, de rencontrer les microbes, de prendre les microbes des autres, mais voilà. Chacune de ces, frères et sœurs, regardez comment Dieu contrôle toutes choses. Chacune de ces particules garde sa position et se déplace dans l'air selon l'ordre établi par Dieu. C'est extraordinaire, on ne les voit pas, on ne les voit pas. Mais elles se déplacent dans l'ordre que Dieu leur a donné, dans l'ordre que Dieu a prévu. C'est incroyable. La raison qui me porte à croire cela, c'est qu'il est écrit ceci dans Proverbes chapitre 16, verset 33. L'on jette les dés pour connaître l'avenir, mais c'est le Seigneur qui détermine la réponse. Nous jetons les dés pour connaître l'avenir, certains le font, mais c'est le Seigneur qui détermine la réponse. Vous vous rappelez quand les apôtres ont dû choisir un remplaçant pour Judas? Ils ont tiré au sort, mais ils n'ont rien tiré au sort parce que Dieu avait déjà déterminé qui remplacerait Judas. Et c'est Matthias. Ils avaient le choix entre Barnabas et Matthias, et c'est Matthias qui a été choisi pour remplacer Judas. Les dés, nous jetons les dés pour connaître l'avenir, mais c'est le Seigneur qui détermine la réponse. Le monde, que ce soit à l'échelle macroscopique ou à l'échelle microscopique, est sous le contrôle de Dieu. Sa souveraineté n'a pas de fin, sa royauté dure à jamais. Ce Dieu qui est en contrôle de tout est un Dieu qui m'aime, est un Dieu qui vous aime. Il est un Dieu qui veut vous amener à régner avec lui pour l'éternité. Frères et sœurs, Dieu ne veut pas se contenter uniquement que nous puissions partager l'éternité avec lui. Il veut nous amener à régner avec lui. Nous sommes co-héritiers avec Christ, nous allons régner avec lui. Et ça, c'est une nouvelle extraordinaire. Et ça va nous amener à prendre des résolutions pour l'année 2019. On va voir à travers le combat que Daniel et ses compagnons ont eu à vivre, il y a des résolutions, il y a certaines résolutions qu'ils ont prises que nous devrions aussi mettre en application durant toute l'année 2019 si nous voulons voir la puissance de Dieu se manifester dans chacune de nos vies. Pardon. Dans Actes, chapitre 3, verset 17-18, lorsque Pierre dit dans son sermon destiné aux gens qui ont tué Jésus, qui sait qu'eux et leurs chefs ont agi par ignorance à l'égard de Jésus, il ajoute pour montrer que Dieu contrôlait la situation, que Dieu a réalisé ainsi ce qu'il avait été annoncé autrefois par les prophètes, son Messie, et que son Messie devait souffrir. Il dit aussi dans Actes chapitre 2, verset 23, que cet homme qu'ils ont livré conformément à les décisions que Dieu avait prises, et au plan qu'il avait forcé d'avance, eh bien, ils l'ont tué en le faisant mourir à une croix par des hommes pécheurs. Ce que je comprends, c'est que ces gens ne savaient pas ce qu'ils faisaient, frères et sœurs, mais Dieu, lui, le savait. Vous êtes amen à ça? On ne sait pas ce qui se passe dans le monde. Il y a des gens qui ne savent pas ce qui se passe dans le monde, mais Dieu sait très bien ce qui se passe dans le monde. Dieu sait parfaitement ce qui se passe dans le monde parce qu'il est en contrôle de chaque événement, de chaque chose qui se passe dans le monde. Et l'aboutissement, ce sera le retour de Jésus-Christ. Et après le retour de Jésus-Christ, ce sera le jugement de Dieu. Et après le jugement de Dieu, ce sera les deux résurrections. La résurrection des justes, la résurrection des injustes. Les justes pour partager le royaume de Dieu avec Jésus-Christ pour l'éternité. Les autres pour partager l'enfer avec le diable pour l'éternité. Ça fait partie du message de l'Évangile de parler du ciel et de l'enfer, n'est-ce pas? Oui. Et c'est là qu'on comprend pourquoi Dieu nous aime, pourquoi Dieu nous a tant aimés. Il a fait ça pour nous épargner. Dieu a livré Jésus-Christ. Les hommes pensaient qu'ils s'en débarrasseraient, mais ils faisaient partie du plan parfait de Dieu. La Bible dit, à travers l'apôtre Pierre, que Dieu a livré Jésus-Christ. Et Paul dit dans un autre endroit dans les Épîtres que Dieu a offert son Fils en sacrifice. Peu importe la méchanceté de Dieu, Dieu est en contrôle de toutes choses. Dieu avait prophétisé que Jésus-Christ viendrait sur la terre, qu'il mourrait pour vos péchés, pour mes péchés. Et les hommes, aussi méchants qu'ils puissent être, eh bien, on fait partie du plan parfait de Dieu concernant ce sacrifice. Il est écrit dans Ésaïe, chapitre 53, verset 10, qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après l'avoir livré en sacrifice pour le péché. Cela signifie que le péché le plus grave jamais commis a été décidé sur la terre, a été décidé par Dieu lui-même parce qu'il nous aime et parce qu'il voulait nous sauver de l'enfer pour l'éternité. Dieu contrôle tout et il le fait pour sa gloire et pour notre bien, pour votre bien et pour mon bien. Frères et sœurs, le livre de Daniel, c'est un livre que tout adolescent devrait lire. Il est bon de remarquer que Daniel est l'un des livres les plus populaires de l'Ancien Testament. Ce livre a tout pour lui. Nous y trouvons une histoire incroyable, des prophéties, des décisions politiques, des prières bien spécifiques, des statues, des animaux sauvages, une fournaise ardente, des visions et des rêves, un roi qui se nourrit d'herbes comme les bœufs, des anges, vous êtes les bœufs ici ou les bœufs? Les bœufs, ben voilà, c'est des bœufs. Comme les bœufs, comme au Québec en fait, oui. Des anges et des démons, des informations détaillées sur l'histoire ancienne et d'incroyables prophéties sur la fin des temps. Je recommande vivement Daniel comme étant l'un des meilleurs livres à lire pour les jeunes dans l'Ancien Testament. Nous découvrons dans ce livre la différence que peuvent faire dans le monde des adolescents qui aiment le Seigneur. Et on a besoin dans nos églises d'éduquer nos enfants dans les voies de Dieu pour que ces adolescents puissent montrer ouvertement jusqu'à quel point ils aiment le Seigneur parce qu'ils auront baigné dans une culture chrétienne qui s'appuie sur le Seigneur Jésus-Christ, le témoignage du Seigneur Jésus-Christ, et qu'ils soient capables d'exporter ce témoignage à l'extérieur. Ça, c'est ma prière, en tout cas pour 2019. Qu'on ne se contente pas seulement que nos enfants viennent à l'Église, qu'on ne se contente pas seulement que nos enfants ne fassent pas de graves péchés, mais que nos enfants, en venant à l'Église, puissent rencontrer d'une manière personnelle le Seigneur Jésus-Christ, donner leur vie à Jésus-Christ, et pouvoir s'investir non pas seulement dans l'Église, mais aussi s'investir à proclamer la parole de Dieu. On manque de proclamateurs de la parole de Dieu. Comment pourront-ils être sauvés s'ils n'entendent pas le message de l'Évangile, frères et sœurs? Moi, je commence à me faire un peu vieux, mais on a des jeunes qui sont là, qui sont en pleine santé, qui ont des capacités incroyables, et Dieu, à travers Jésus-Christ, veut utiliser leurs capacités pour se glorifier et amener des hommes à passer par une nouvelle naissance. Nous gagnerions tous à méditer sur le courage de Daniel et de ses trois amis. Par exemple, comment devons-nous vivre dans un monde où les croyants sont en infériorité numérique et souvent submergés? C'est une question que Daniel a vécue, c'est une question que nous vivons présentement. Est-ce que vous avez une réponse ce matin pour cela? Devons-nous vivre dans un monde où les croyants sont en infériorité numérique et où nous sommes submergés par toutes sortes de courants de philosophie? Comment on réagit? Comment devons-nous réagir face à tout ça? Comment devons-nous nous comporter face à ce monde qui essaie de nous envahir? Deuxièmement, comment devons-nous réagir face à la vague montante de lois qui vont à l'encontre de la loi de Dieu? Donc, je ne peux pas nommer les lois qui vont à l'encontre de la loi de Dieu pour me faire poursuivre devant les tribunaux. Vous les connaissez. Il y a des lois qui sont aberrantes. Je vais le résumer simplement comme ceci. Il y a 50 ans, tout ce qui était bien était mal, est rendu mal aujourd'hui. Et tout ce qui était mal il y a 50 ans, eh bien, c'est maintenant bien aujourd'hui. Vous avez compris, hein? Alors, voilà. Alors, notre liberté de penser, notre liberté de parole est de plus en plus limitée. Voilà. Comment devons-nous réagir face à la haine pure et simple qui est manifestée de plus en plus contre les chrétiens à travers le monde? J'ai déjà dit plusieurs fois dans les études bibliques, du haut de la chair ici, qu'il y a une tempête de persécution qui s'en vient dans le monde occidental. Alors, on est mieux d'être équipé, on est mieux de se préparer, parce que c'est possible qu'on le voit arriver en 2019. Je vous avais parlé de la France qui a un projet de loi pour insérer une puce à la plupart de... qui va sûrement obliger ses citoyens à insérer une puce entre... C'est l'index ici, oui? Et le pouce, ici, pour soi-disant, pour les apaiser, pour les sécuriser. Et j'ai appris hier, en parlant avec un chrétien de l'Église, qu'aux nouvelles de RTL TVI cette semaine, eh bien, le gouvernement belge pense aussi de de demander aux Belges d'insérer une puce, un projet de loi pour insérer une puce juste ici, pour finalement leur sécurité et pour les apaiser. Frères et sœurs, on est en pleine prophétie biblique. On est en train de préparer un gouvernement mondial. Tout est en place pour voir ressortir un dictateur où Adolf Hitler aura l'air d'un enfant d'école par rapport à celui qui va contrôler le monde. Et pourtant, la Bible nous en parle depuis plus de 2000 ans. Où est Dieu au milieu d'une culture païenne? Où est Dieu au milieu d'une culture païenne, frères et sœurs? Daniel et ses compagnons ont dû faire des choix concernant ça. Comment proclamer Christ dans un monde qui ne croit même pas au concept de vérité? Daniel fournit un modèle positif sur la façon de vivre pour Dieu lorsqu'une personne d'autre ne partage pas votre foi. Et afin de pouvoir comprendre le contenu du livre de Daniel, nous devons nous imprégner du contexte dans lequel il est écrit. Alors, c'est une introduction à une série de messages. J'ai besoin de vous parler de ça ce matin. Ça peut être lourd, mais je suis obligé de vous en parler si on veut être capable de comprendre la suite. Daniel a vécu environ 400 ans avant David, et 600 ans avant Jésus-Christ. Le livre couvre la période allant de 605 à 530 avant Jésus-Christ. Le début du livre nous présente Daniel, un adolescent âgé d'environ 15 ans. Quand je vous parle de similitude entre Joseph et Daniel, Joseph avait 17 ans quand il a été placé dans la citerne, qui a été vendu comme esclave aux Madianites et ensuite vendu à Potiphar. Il avait 17 ans. C'est pas facile pour un jeune. Un jeune de 15 ans, un jeune de 17 ans, un jeune comme Daniel, 15 ans, et un jeune comme Joseph, 17 ans, qui sont déracinés de leur culture familiale, de leur culture religieuse, pour baigner carrément dans un milieu païen. Et vous regardez le décor à ce moment-là, quand Joseph, quand il est arrivé en Égypte, il a vu tous ces dieux qui planaient finalement en Égypte. Et la même chose probablement pour Daniel et pour ses compagnons, tous ces dieux, quand ils sont arrivés, qu'ils ont vu tous ces dieux. Il y en avait pour les fins et les fous, autant en Égypte, autant qu'à Babylone. Au cours de sa longue vie, Dieu lui a permis de servir sous une succession de dirigeants babyloniens et perses. En tant qu'esclave juif, il va devenir un premier ministre de confiance et le conseiller de certains des dirigeants les plus puissants que le monde ait connus. Dans le début du livre, nous apprenons que le roi de Babylone est venu assiéger la ville de Jérusalem et que Daniel et ses amis ont été amenés de force à Babylone, où ils subiront une énorme transformation culturelle avant qu'ils puissent travailler pour le roi païen Nabucodonosor. Quand vous regardez ce qui se passe dans nos écoles, frères et sœurs, si vous n'enseignez pas vos enfants à la maison dans les voies du Seigneur, et vous allez finir par perdre vos enfants, parce que dans nos écoles, on est en train de travailler à transformer culturellement, religieusement, la façon de penser de nos enfants. Si vous n'enseignez pas, vous ne parlez pas de la création régulièrement à vos enfants, l'école s'occupe de leur parler du Big Bang, s'occupe de leur parler de l'évolution, et à un moment donné, ça devient presque irréversible pour nos enfants. Le premier verset que j'ai appris à mon petit-fils qui a 3 ans, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa. C'est un créateur. Dès l'âge de 3 ans, il a besoin de l'apprendre parce que tôt ou tard, il va être confronté avec l'enseignement qu'il va recevoir à l'école. Que ce soit dans une école catholique, que ce soit dans une école libre, peu importe l'école, les catholiques sont aussi mêlés dans leur enseignement que les autres. Il y a des catholiques qui enseignent l'évolution, qui enseignent le Big Bang, qui enseignent n'importe quoi. On a la parole de Dieu. Dieu nous dit qu'on est le fruit de la création de Dieu. Nous sommes les créatures de Dieu. C'est important qu'on puisse vraiment transmettre ça à nos enfants. Pour éviter un jour qu'ils viennent nous dire à l'âge de l'adolescence que ce qu'on croit, ce sont des histoires pour enfants. Daniel, la culture dans laquelle il est baigné, c'est ce qui va les sauver. Les trois aussi, on va le voir rapidement. Mais les principaux acteurs, il y a trois principaux acteurs dans ce texte. Ici, on va regarder le verset 1. Hein? Il y a d'abord Nabucodonosor. Pas facile à dire celui-là. Hein? Surtout pour un Canadien français, c'est pas évident. Alors voilà, Nabucodonosor. Il y a Nabucodonosor et les Babyloniens, verset 1. Il représente le système mondial hostile au peuple de Dieu. Et rappelez-vous que dans la Bible, Babylone représente toujours et sans exception le système du mal, le symbole du mal et un paganisme idolâtre. Ce qui a commencé par la tour de Babel dans Genèse 11 atteint son apogée dans Apocalypse chapitre 17-18, alors que tout le système mondial sera finalement détruit lors de la seconde venue de Jésus-Christ. Les principaux acteurs, Babylone, son roi, deuxièmement, Daniel et ses trois amis, Anania, Michaël et Azaria. Ils représentent les croyants dans le monde qui s'efforcent d'obéir à Dieu au milieu de nombreuses oppositions spirituelles, et je me dirais même de nombreuses oppressions spirituelles. Et finalement, le troisième acteur dans le livre de Daniel, c'est le Seigneur lui-même, qui laisse ses enfants dans le monde, mais qui cherche pourtant à les amener en toute sécurité dans la gloire céleste. Il ne dit jamais un mot, mais il est celui qui se cache derrière les scènes de la vie, orchestrant les événements de ce livre afin de concrétiser les objectifs qu'il s'est fixés. Et en méditant sur ce passage, le Seigneur veut nous enseigner comment le monde tente de séduire l'Église. Ce qui va commencer par un assaut frontal va se transformer ensuite en une tentative très subtile d'assimiler totalement les croyants au monde. Et frères et sœurs, c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe, frères et sœurs. Au milieu de nombreuses circonstances désarmantes, nous porterons finalement nos regards sur quatre adolescents qui ont trouvé le courage de dire non à la tentation de se conformer comme le monde et de dire oui à Dieu. Et frères et sœurs, c'est le défi qu'on doit prendre en main cette année. Être capable de dire non au monde et de dire oui à Dieu. Être capable de dire non, je ne me conformerai pas aux habitudes de ce monde. Mais je vais vous me confirmer à faire la volonté de Dieu. C'est capital, je vais vous le dire, c'est capital pour notre survie. De nombreuses églises sont en train d'imiter dans leurs salles des formes de culte qui ressemblent à des spectacles qu'on va voir le vendredi ou le samedi soir. On a parlé de la sainteté de Dieu aujourd'hui. Savez-vous que c'est difficile à parler de la sainteté de Dieu aujourd'hui? Savez-vous que c'est difficile dans nos églises de parler de la grandeur de Dieu aujourd'hui? Savez-vous que c'est difficile de parler de la puissance de Dieu aujourd'hui dans nos églises? Je l'ai déjà dit à l'étude biblique, je vais vous le dire. Je vais visiter des églises qui me demandent de prêcher pendant 12 minutes. Après 12 minutes, on me dit que les chrétiens sont incapables d'en supporter plus. Mais ils sont capables, durant le mondial, de regarder deux matchs de foot, un derrière l'autre. Savez-vous la pression énorme qu'on a quand on va faire des séminaires? J'ai déjà fait un séminaire où on m'a demandé de faire un séminaire, je ne dirais pas où. Et quand j'ai choisi le titre, Le retour de Jésus-Christ, on m'a demandé de changer mon titre. Et je leur ai dit que si je changeais mon titre, qu'il se trouve un autre gars. J'aurais demandé pourquoi, mais ça fait peur. Ça fait peur à nos membres quand vous parlez du retour de Jésus. Moi, c'est bizarre, mais ça m'encourage énormément. Quand on a peur que que le Seigneur revienne, c'est parce qu'on n'est pas certain où on va aller. Parce que si on était certain où on passerait l'éternité, on n'aurait pas peur. On serait dans la joie, comme l'apôtre Paul, comme l'apôtre Pierre, comme tous ceux qui nous ont précédés, qui marchaient dans les voies du Seigneur. Les quatre individus que nous avons ici étaient capables d'affronter le roi le plus puissant de la terre parce qu'ils savaient, ils avaient la conviction qu'il y avait un Dieu qui était en contrôle de toutes choses, qui contrôlait leur vie. Et ils marchaient avec cette assurance que le chrétien doit avoir parce qu'ils vivaient comme Dieu leur demandait de vivre. Et l'Église de Jésus-Christ a besoin de revenir à cela en 2019. Pourquoi? Parce que le monde cherche à détruire notre héritage chrétien. Verset chapitre 1, verset 1. « Pendant la troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, le roi de Babylone, Nabuchodonosor vient assiéger à Jérusalem. » Et regardez les versets, la deuxième version, on va le lire un petit peu plus tard, mais les versets 1 et 2 nous ramènent 605 ans avant Jésus-Christ. Nous apprenons que les deux versets nous apprennent que le roi de Babylone a envahi Jérusalem et qu'il a particulièrement pris plaisir à piller le temple de Jérusalem en emportant ses trésors à Babylone. L'histoire raconte que plus de 10 000 Juifs furent déportés à Babylone. C'est à partir de ce jour que le temple, la ville et tout ce qui avait de la valeur tomba entre les mains des païens. Une deuxième déportation suivra plus tard. Les Babyloniens attaqueront de nouveau Babylone, détruisant entièrement cette fois-là le temple de Salomon, laissant la ville et les murs complètement en ruine. Et on sait que ce qui va se passer un peu plus loin quand on regarde, eh bien, on sait qu'il y a Néhémie, Dieu a envoyé Néhémie pour reconstruire les murs de Jérusalem. C'est lors de la première vague de déportés que Daniel et ses amis ont été amenés à Babylone. Ils sont maintenant loin de chez eux et séparés de tout ce qu'ils ont connu. Comment vont-ils pouvoir adorer Dieu sans temple, sans sacrifice, alors qu'ils vivent parmi les non-chrétiens? Le monde cherche à détruire notre héritage chrétien en nous séparant de notre patrimoine, pardon, et en nous retirant notre propre passé culturel. Chose intéressante, nous vivons dans un monde, on peut dire dans une société laïque. Chose bizarre aussi, il y a des gouvernements athées qui dirigent nos pays. Et ils vont investir, donner des subventions pour que les églises restent sur place. C'est vraiment contradictoire. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que si on enlève les églises, on va effacer l'histoire qui a accompagné le peuple pendant des siècles et qu'on va avoir une crise d'identité épouvantable dans les pays où on va faire disparaître les églises et tout ce qui regroupe notre passé. Et c'est à coup de milliards à chaque année qu'on vote des budgets pour restaurer des lieux de culte, pour restaurer des bâtiments, afin que le peuple puisse se rappeler son histoire. D'un autre côté, il y en a qui s'efforcent aussi pour détruire les églises, pour effacer. Pourquoi? Parce que quand on efface l'histoire d'un peuple, on peut leur redonner une nouvelle histoire qui n'est pas nécessairement celle que Dieu voudrait qu'on entende. Le monde cherche à détruire notre héritage. Le monde cherche à déconstruire notre foi. Verset 2, « Le Seigneur livra Joachim en son pouvoir et le laissa s'emparer d'une partie des ustensiles sacrés du temple de Dieu. Nabuchodonosor amena des prisonniers en Babylonie et déposa le butin dans le temple de ses dieux dans la salle du trésor. » Nabuchodonosor prit les articles du temple, c'est-à-dire divers articles en or et en argent utilisés pour le culte, et les ramena avec lui à Babylone. Il les plaça dans le temple du plus grand dieu en Babylonie, le dieu Bel-Marduk. En prenant ainsi les objets de culte dans le temple de Dieu, il voulait montrer la totale défaite d'Israël. Le message était le suivant, « Notre Dieu est plus grand que votre Dieu. » Le message dans notre société aujourd'hui, « Ce que nous adorons est plus grand que le Dieu que vous adorez. » Et le monde en profite pour manifester sa puissance guerrière, sa puissance monétaire, alors qu'on est en faillite dans tous les domaines, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau politique, c'est la faillite. Rappelez-vous que plusieurs années auparavant, pendant une période de déclin spirituel, les Israélites avaient pris les symboles de d'autres dieux païens dans leur temple. Dieu permettait maintenant à un roi païen de leur rendre l'appareil en amenant leurs trésors, les trésors du temple, dans un temple païen. C'est tout simplement un juste jugement de Dieu. Dans la Bible, aucun principe n'est aussi bien établi que celui-ci. L'homme récolte toujours ce qu'il a semé. L'homme récolte toujours ce qu'il a semé. Les Juifs avaient profané leur propre temple en adorant d'autres dieux. Dieu permettait maintenant aux païens d'entrer dans son temple pour faire la même chose. D'un point de vue purement humain, cela signifiait que Dieu était mort. Cela soulève cinq questions. Comment pouvez-vous expliquer de façon logique le pillage de la demeure du seul vrai Dieu? Comment pouvons-nous faire confiance à un Dieu qui est vaincu? Comment pouvons-nous faire confiance à un Dieu lorsque tout laisse penser qu'il est mort? Ce Dieu pouvait-il garantir qu'il serait fidèle lorsque votre monde s'écoulerait tout autour de vous? Est-ce que votre Dieu est plus grand que vos circonstances, frères et sœurs? Est-ce que quand vous vivez une épreuve, vous avez les yeux braqués sur les circonstances ou sur le Dieu qui est capable, qui est en contrôle de toutes les circonstances de votre vie? Ça, c'est ce qui change, c'est ce qui va tout changer dans notre vie. Est-ce qu'on arrête, on se fixe nos yeux uniquement sur les circonstances ou sur celui qui est au-dessus des circonstances et qui dit, écoute bien ce que tu vis, je le permets, et je suis toujours en contrôle de ce que tu es en train de vivre. Et 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, non seulement je suis en contrôle, mais ce que tu es en train de vivre, j'ai déjà la solution pour t'en sortir. Et ce que tu vis, je ne permettrai jamais, parce que tu es mon enfant, que ça aille au-delà de ce que tu es capable de supporter. C'est notre Dieu, ce frère et soeur. C'est le Dieu que nous servons. Et pourtant, il permet des épreuves. Pourquoi il permet qu'on vive des circonstances difficiles? Pourquoi? Parce qu'il veut nous amener simplement à ressembler à Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 29. Uniquement. On a été sauvé pour nous amener à ressembler à Jésus-Christ. Et dans la première épître de Jean, il est écrit que tous ceux qui disent appartenir à Jésus-Christ doivent vivre comme Jésus a vécu. Pas facile à digérer ce verset-là. Hein? Et c'est ce que Daniel et ses compagnons s'efforçaient de faire. Et c'est ce que nous sommes capables de faire en Jésus-Christ si nous restons unis à lui. Je l'ai dit il y a deux semaines, le problème, c'est qu'on ne reste pas nécessairement unis à lui. Et quand on ne reste pas unis à lui, Dieu va provoquer des choses dans nos vies pour nous ramener et faire en sorte qu'on s'accroche, que chaque wagon soit bien accroché et qu'on suive ce chemin étroit qui mène à la gare céleste. Le monde cherche à reconstruire nos valeurs. On va lire ensemble les versets 3 à 5. Regardez ceux qui ont leur Bible. Nabucodonosor ordonna au chef de son personnel, Ashpenaz, de choisir parmi les Israélites quelques garçons de la famille royale ou de famille noble. Daniel et ses compagnons n'étaient pas des enfants d'ouvriers, c'étaient des enfants de famille noble, de famille royale. Ces jeunes gens ne devaient présenter aucun défaut physique. Ils devaient avoir bonne apparence, être vigoureux, être remplis de sagesse, de connaissances et de discernement, afin de pouvoir entrer au service du roi dans son palais. Nous pouvons présumer que ces enfants avaient été inculqués, avaient reçu une éducation qui était conforme aux voies de Dieu. On leur enseignait la langue et l'écriture des Babyloniens. Le roi prescrivit qu'on leur fournisse chaque jour la même nourriture et le même vin qu'à lui et qu'on les instruise durant 3 ans. À la fin de cette période, ils entreraient à son service. Il est important de savoir qu'à partir du verset 5, tout le reste du contenu du livre de Daniel se passe à Babylone. À partir de ce moment, Daniel est loin de son pays, et en autant que nous sachions, il n'a jamais remis les pieds dans son pays, même pas, non seulement il n'a pas mis les pieds dans son pays, mais il n'a jamais visité non plus son pays. Et si je devais donner un titre au contenu des versets 3 à 5, ce serait Opération Assimilation. Cela va commencer, regardez, Opération Assimilation. Regardez, on va suivre ensemble. Hein. Premièrement, ça va commencer en sélectionnant la crème des adolescents juifs. Le roi va les remettre entre les mains de son bras droit, Ashpenaz. Deuxièmement, on s'assure ensuite qu'ils obtiennent la meilleure éducation que Babylone puisse offrir à des adolescents. Troisièmement, pendant 3 ans, ils seront immergés dans la connaissance, la culture, l'histoire, la langue et la religion babylonienne. Quatrièmement, à la fin de cette période, ils vont entrer au service du roi et ils seraient assurés d'occuper des postes de haut niveau au gouvernement. C'est très intelligent et très séduisant. Le contrôle de l'esprit, frères et sœurs, commence toujours par les jeunes. Quand un pays fait une révolution, l'endoctrinement commence toujours à travers les jeunes. Jamais à travers les vieux, les has-beens, jamais. Les jeunes. Les jeunes, ce sont des éponges. On peut les endoctriner, les jeunes. Et on les endoctrine. C'est ce que le roi essayait de faire ici. La première étape consistait en une bourse d'études complète à l'Université de l'État de Babylone, l'équivalent de l'Université d'Howard aujourd'hui. À cet endroit, ils apprendraient les sciences, les mathématiques, l'acadien, l'astrologie, le commerce et l'histoire. La deuxième étape consistait à leur offrir de la nourriture gratuite au restaurant du roi, où vous pouviez manger tout ce que vous vouliez alors qu'il y en a d'autres qui crevaient de faim. Je suis sûr que nous comprenons tous ce principe, n'est-ce pas? Même à cette époque, ils savaient que pour gagner le cœur d'un jeune homme, eh bien, cela passait par son estomac. La troisième étape consiste à changer leur nom, versets 6 et 7. Regardez versets 6 et 7. C'est pas anodin de changer les noms. Si nous voulons être honnêtes, d'un côté, c'était une proposition difficile à refuser pour des jeunes, et d'un autre côté, nous devons dire que le roi de Babylone ne voyait pas cela comme étant quelque chose de mal. Il croyait sûrement qu'il était en train de faire une incroyable faveur à ses adolescents, et en cela, son chef du personnel accomplissait parfaitement bien son travail. Frères et sœurs, le monde cherche à détruire notre identité. Versets 6 et 7, « Parmi ceux-ci, il y avait 4 jeunes gens qui venaient de la tribu de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef du personnel leur a donné de nouveaux noms. À Daniel, il leur a donné le nom de Beltazar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. » Bien sûr que ce ne soit pas évident dans la traduction française, de voir ce que tous ces noms pouvaient signifier. Mais ils signifiaient quelque chose de particulier. Les noms hébraïques faisaient tous référence au Dieu d'Israël. Les nouveaux noms babyloniens faisaient référence au Dieu de Babylone. Daniel, qui était Dieu et mon juge, est devenu Belshazzar. Bel protège le roi, le Dieu des Babyloniens. Anania, le Seigneur est miséricordieux, est devenu Shadrach, c'est-à-dire Accu, le Dieu soleil sumérien. Michael, dont le nom veut dire qui est comme le Seigneur, devint Meshach, qui veut dire ce que Accu est. Azaria, le Seigneur est mon aide, est devenu Abednego, serviteur de Nebo, un autre dieu babylonien. Les noms hébraïques originaux nous disent que ces quatre jeunes gens provenaient de parents qui avaient élevé leurs enfants à servir le vrai Dieu. En leur donnant de nouveaux noms, eh bien, Ashpenaz voulait effacer leur passé. Ce n'était rien de moins, frères et sœurs, qu'un lavage de cerveau systématique. Nabuchodonosor ne voulait pas que de bons Juifs travaillent pour lui. Il voulait de bons Babyloniens qui avaient des origines juives travailler pour lui. Remarquez qu'il ne les a pas forcés ouvertement à changer de religion, c'est-à-dire la méthode qu'il a utilisée aurait pu, les amener à oublier assez facilement d'où ils venaient. On ne parle pas des quatre. Rappelez-vous, c'est un groupe de jeunes qu'on a invité à suivre finalement ce lavage de cerveau. Et il y en a quatre qui ont su résister. Quatre parmi tout le groupe qui ont su résister. Et le but de viser, c'était d'amener clairement ces jeunes gens à penser, agir et à parler comme les païens qui les entouraient. Et cela aurait peut-être pu fonctionner, mais ils avaient oublié quelque chose d'important. Vous pouvez changer l'extérieur de quelqu'un, mais vous ne pouvez pas changer le cœur de quelqu'un si celui-ci ne veut pas qu'il soit changé. Voilà un espoir important pour tous les parents chrétiens qui s'inquiètent, et à juste titre, de l'influence négative venant du monde qui nous entoure. En fin de compte, frères et sœurs, notre travail consiste à planter la semence de la vérité de Dieu dans le cœur de nos enfants et faire ensuite confiance à Dieu pour voir un jour du fruit apparaître dans leur vie et récolter le moment venu. Et c'est un encouragement, je pense, que pour les parents qui ont des adolescents ou peut-être des jeunes adultes qui ne sont pas encore au Seigneur, et je vous invite à ne pas désespérer, à continuer d'intercéder. Vous savez quelle graine vous avez semée dans le cœur de ces enfants. Vous savez quel genre de témoignage vous avez été pour vos enfants dans vos foyers. Eh bien, c'est entre vous et le Seigneur. Moi, je vous invite à persévérer, à prier pour vos enfants. Tout est possible à celui qui croit, car rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu a autant à cœur de sauver vos enfants qu'il a à cœur de vous avoir sauvés. Vous êtes amen à ça? Ça, c'est quelque chose de vraiment important. Moi, je ne crois pas que Dieu a créé des gens pour aller en enfer et des gens pour aller au ciel. La Bible est claire à travers la première épître de Pierre. Dieu veut que tous parviennent à la repentance, que tous parviennent au salut. Et dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 2, l'apôtre Jean nous dit que Christ est mort pour les perdus, pour les païens, comme pour ceux qui étaient pour être sauvés. Alors, on a un Dieu extraordinaire. On a un Dieu qui ne fait pas de favoritisme. C'est un verset important dans la Bible. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il nous aime tous de façon égale. Il n'a même pas plus qu'il vous aime. Il n'a même pas moins qu'il vous aime. Dieu nous aime tous de façon égale. Mais il a un plan pour chacun de vous, un plan particulier pour chacun de vous, pour faire en sorte de pouvoir se glorifier à travers vos vies. Vous êtes amen à ça?
Amen.
En 2019, pourquoi pas ne se lever debout et dire, Seigneur, je me lève, parce que le plan que tu as pour moi, je veux que je le voie se concrétiser de mon vivant, de mon vivant. Et l'appel, Seigneur, que tu as dans ma vie en tant que ton enfant, c'est-à-dire te servir, fais en sorte aussi que je demeure debout pour te servir, là où tu vas m'appeler. Là où tu vas m'appeler, pas là où je vais aller, là où tu vas m'appeler, Seigneur. Ça fait partie de la soumission de Dieu, ça. La plupart d'entre nous connaissons Romains 12, 2, qui dit « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. » Nous pourrions aussi le traduire ainsi « Ne laissez pas le monde vous coincer dans son moule. » Le monde exercera de la pression sur nous. Nous ne pouvons pas éviter cela, mais nous ne devons pas céder à la pression. Voici donc rapidement, avant de terminer, le plan babylonien en quatre étapes visant à transformer ces jeunes gens. D'abord, les isoler en les séparant de leur culture naturelle. Deuxièmement, en les endoctriner, en leur transmettant une autre façon de voir les choses. Troisièmement, les pousser à faire des compromis en les amenant à accepter une autre sorte de nourriture à laquelle ils sont habitués. Et c'est important, le compromis. On va le voir dans la prochaine fois. Mais le compromis de la nourriture, ça va de l'air anodin. Mais c'était tous des aliments impurs qui leur faisaient prendre. La viande, ça venait des animaux sacrifiés pour les idoles. Tout les poussait à faire des compromis. Et frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est comme un escalier. Mettez le nombre de marches que vous voulez. C'est comme un escalier. Si vous faites un compromis, c'est comme si vous enlevez une marche de l'escalier. Si vous faites un deuxième compromis dans votre vie chrétienne, vous enlevez une deuxième marche dans votre vie chrétienne, dans votre escalier. Et à force de faire des compromis, il va vous manquer tellement de marches d'escalier que pour revenir à vous, si vous étiez dans votre vie chrétienne, ça va devenir presque impossible. Vous ne serez plus capable de revenir au point de départ. Dieu veut nous faire monter les marches une par une, et ce, sans faire de compromis. Dieu veut nous faire monter les marches une par une, en s'efforçant de faire sa volonté. Vous dites « Amen » à ça. Amen. Quatrièmement, semer la confusion en leur donnant un nouveau nom. C'était un bon plan, puisque seulement 4 parmi tous les adolescents juifs, je le répète, qui sont entrés au service du roi, ont refusé de céder et de se laisser transporter, transformer dans cette nouvelle culture. Rapidement, le monde n'a pas. Jésus a dit que le monde ne prévaudra pas contre son Église. Et ça, on arrive à la fin de notre texte de ce matin, où la situation semble désespérée. Mais aux surprises, vous avez ici 4 adolescents prêts à affronter l'homme le plus puissant du monde. Vous rappelez, frères et sœurs, c'est pas extraordinaire, ça? Frères et sœurs, faut-tu savoir où on s'en va? Faut-tu avoir cette assurance que Dieu est avec nous? Faut-tu savoir que Dieu est présent avec nous? Avoir la certitude que Dieu est là? Que peu importe ce qui nous arrive, et on le verra un peu plus tard dans le fournaise ardente, si Dieu veut qu'on meure, pas de problème. C'est ce qu'ils leur ont dit, on voit. Ouais, si Dieu veut qu'on meure, mais nous, on ne fera pas de compromis. Si tu veux qu'on meure, jette-nous dans le feu. C'est Dieu qui va décider si on doit mourir ou pas. Et quand vous regardez après ce que ça a amené dans la vie du roi, ça, il a loué la grandeur de Dieu, ce roi-là. Il a demandé à tout le monde après d'adorer le Dieu de Daniel. Et frères et sœurs, c'est ça notre témoignage. Ne pas faire de compromis. Ne pas faire de compromis. Et peu importe si vous êtes insulté, peu importe si vous recevez une tape dans la figure, peu importe s'il y a des gens qui ne vous parlent pas, rappelez-vous que ce sera la volonté de Dieu si vous avez rendu témoignage du Dieu que vous servez. Le Seigneur a dit, réjouissez-vous si on vous persécute. Si on vous persécute, ce n'est pas mes paroles, c'est les paroles de Jésus, car une grande récompense vous attend dans les cieux parce que vous avez annoncé mon évangile. Réjouissez-vous. Ils m'ont haï, dit Jésus. Ils vont vous haïr aussi. Ils m'ont rejeté, dit Jésus. Ils vont vous rejeter aussi. Pourquoi ils vont faire ça? Parce que le disciple n'est pas plus grand que son maître. S'ils ne m'ont pas épargné, dit Jésus, ils ne vous épargneront pas non plus. C'est le prix à payer. Le salut, il est gratuit, mais la sanctification, il y a un prix à payer. C'est afficher son identité en Jésus-Christ. On ne fait pas de mal à personne, on fait juste leur parler, d'annoncer une bonne nouvelle, pas une mauvaise, une bonne. Et les gens nous rejettent parce que c'est une bonne nouvelle qu'ils ne veulent pas accepter. Ces 4 Juifs ont compris une chose. Ils ont compris que 4 personnes liées ensemble plus Dieu, il n'y a personne qui pouvait les vaincre. Lorsque vous intégrez Dieu dans l'équation, vous réalisez soudainement que Nébuchadnezzar ne semble pas plus si puissant qu'il était. J'ai volontairement ignoré une phrase au clé au verset 2, à laquelle nous devons maintenant réfléchir. C'est une petite phrase. Le Seigneur livra. Et on va revenir à la souveraineté de Dieu. Le Seigneur livra. Ce qui est arrivé à Jérusalem n'était pas le fruit du hasard, frères et sœurs. Je suis sûr qu'à la une du dernier numéro du journal de Babylone, il était écrit « Nabuchodonosor a pris possession de Jérusalem ». Mais c'est faux. Nabuchodonosor n'a pas pris Jérusalem, c'est Dieu qui lui a donné. Et si Dieu ne lui avait pas donné, il ne l'aurait jamais pris du tout. Dites amen à ça. Frères et sœurs, les chrétiens devraient être le peuple le plus calme sur la terre. Nous n'avons plus le droit de nous tortiller les mains, sûrement pas quand notre Dieu est sur le trône en train de réaliser son plan parfait sur la terre. Le livre de Daniel commence par ce qui semble être un net triomphe du mal sur le bien. Pourtant, Dieu a permis que cela se produise pour que ses plans les plus élevés se réalisent. Je suis sûr que Nébuchadnezzar ne le savait pas et que les Juifs avaient du mal à le croire, mais c'était quand même vrai. En réfléchissant à cela dans son contexte plus large, je me demande ce qui distingue ces 4 adolescents des autres. Comment ont-ils pu trouver la force de survivre dans une culture aussi païenne que celle de Babylone? Nous trouvons la réponse au verset 8. Pour ceux qui ont leur Bible, c'est une récompense pour vous ce matin. Allez dans Daniel chapitre 8, verset 8. Daniel prit la ferme résolution de ne pas se rendre impur en mangeant à la table du roi. Qui peut le lire en 8 secondes? Frères et sœurs, on est à début de 2019. On est appelé à prendre des résolutions. Vous savez pourquoi les résolutions, quand on les prend, ils finissent par tomber 15 jours, un mois, deux mois après? Parce que contrairement à Daniel, ce ne sont pas de fermes résolutions. Voilà où est toute la différence. Ferme résolution, résolu, convaincu. Il y a combien de gens qui pensent, je ne vise personne, hein? Il y a combien de gens qui pensent arrêter de fumer en 2019? Qui pensent? C'est une première étape. Qui veulent arrêter? C'est une deuxième étape. Mais qui n'arrêteront pas de fumer. Il y a combien de gens qui pensent, qui veulent arrêter de pratiquer tel péché, mais qui n'arrêteront pas de pratiquer le péché parce qu'ils ne sont pas fermement résolus de l'abandonner? Et ça fait 20, 30, 40 ans qu'ils pensent d'arrêter, mais qu'ils ne sont pas fermement résolus. Frères et sœurs, ce passage nous apprend beaucoup de choses sur quelques sujets que je ne développerai pas ce matin, mais sur lesquels je vous laisse réfléchir. La force qu'il y a à garder en mémoire l'enseignement spirituel que nous avons reçu quand nous étions jeunes. L'importance de conserver notre héritage chrétien. Troisièmement, l'importance de former un enfant, nos enfants, dans les voies du Seigneur. Quatrièmement, l'appel à faire confiance entièrement à Dieu en toutes choses. Dieu a utilisé la tentative du roi de Babylone envers Daniel et ses amis pour les préparer à une plus grande œuvre à venir. Et nous avons ici encore un autre exemple de la souveraineté de Dieu à l'œuvre. Le mal que les Babyloniens entendaient faire, même si pour eux ils ne considéraient pas comme ce qu'ils faisaient comme étant mal, Dieu s'apprêtait à le changer en bien comme il le fait pour Joseph. Et frères et sœurs, dans votre vie chrétienne, le mal que les gens complotent de vous faire, si vous vivez selon la volonté de Dieu, le mal que les gens veulent vous faire, Dieu va le transformer en bien. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est pas juste pour Joseph, c'est pas juste pour Daniel et ses compagnons, c'est pour tous ceux qui sont des enfants de Dieu et qui marchent selon la volonté de Dieu. Quel enseignement pour nous tous! Israël a été vaincu, mais Dieu n'a pas été vaincu, frères et sœurs. Dieu veut que ses enfants survivent et prospèrent même dans les circonstances les plus difficiles de la vie. C'est en partie ce que Jésus voulait dire quand il a dit « Je construirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » L'apôtre Paul écrit que le dernier ennemi qui se détruit, c'est la mort. Nous savons que ce jour n'est pas encore venu. En attendant, nous vivons dans l'espérance du retour de Jésus-Christ. Et j'espère que c'est votre espérance, frères et sœurs. C'est qui a cette espérance-là ce matin? Qui a la conviction que si le Seigneur vient, il ne restera pas collé sur sa chaise, mais il va monter avec lui. Qui? Ah, gloire à Dieu. Ouais. Ça change une vie, ça, non? Ça vous enlève d'abord la peur de mourir, comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, on a essayé de le faire chanter. On l'a flagellé à plusieurs reprises. Et l'apôtre Paul, tout ce qu'il disait, allez-y, allez me rendre service. Hein? Moi, je sais déjà, je m'en vais en haut. Il n'avait pas peur dans la mort, il croyait à la résurrection des morts. Et vous croyez en la résurrection des morts si vous croyez au retour de Jésus-Christ? Parce que s'il n'est pas ressuscité des morts, il ne peut pas revenir. Et comme Paul dit dans Corinthiens 15, notre espérance est aussi vaine que les non-chrétiens, quoi. J'aimerais vous raconter un témoignage en terminant. Voici une lettre écrite par un pasteur africain, martyrisé pour sa foi. Cette lettre décrit la sorte d'attitude qui nous aidera à sortir vainqueurs des pièges posés par le monde sur notre route. Voici le contenu de cette lettre. Je fais partie de la communauté de ceux qui ne sont plus confus. Les dés ont été jetés. J'ai franchi la ligne. Le Saint-Esprit habite en moi. La décision a été prise. Je suis un disciple de Jésus-Christ. Je ne regarde plus en arrière. J'ai laissé tomber mon ancienne vie. Et je ne laisse pas le péché ralentir ma course, mais je cours pour obtenir le prix promis par Christ. Ma vie passée a été rachetée à grand prix. Ma vie présente a maintenant du sens et mon avenir est assuré. Je n'ai plus besoin de me comparer aux autres, de vivre dans la prospérité, d'occuper mes positions enviables, une position enviable, pardon, de travailler pour obtenir des promotions, recevoir des applaudissements ou acquérir une certaine popularité. Je ne cherche plus à avoir raison, ni finir toujours le premier, encore moins d'être reconnu, d'être encensé, admiré ou récompensé. Pardon. Je vis maintenant par la foi, en m'appuyant sur sa présence et en comptant sur sa patience. Je suis en communion avec lui dans la prière et il œuvre à travers moi par sa puissance. Mon rythme est établi, ma démarche est rapide, mon chemin est étroit, mes amis sont peu nombreux, celui qui me guide est fiable, ma mission est clairement définie et mon objectif demeure le paradis. On ne peut pas me corrompre, me pousser à vivre dans le compromis, ni m'amener à me complaire dans une vie chrétienne médiocre. Je ne broncherai pas devant le sacrifice demandé. Je n'hésiterai pas face à l'adversité. Je ne négocierai pas à la table de l'ennemi. Je ne chercherai pas à devenir populaire et je ne perdrai pas mon temps à vivre dans le désordre. Je n'abandonnerai pas, je ne reculerai pas, je ne lâcherai pas et je ne me tairai pas tant que je vivrai à annoncer le sacrifice de Jésus, peu importe le prix à payer. Je me dois de persévérer jusqu'à ce que mon Seigneur me rappelle à lui. Et quand il reviendra chercher les siens, il n'aura aucun problème à me reconnaître parce que j'aurai clairement affiché mes couleurs pour lui. Beaucoup de chrétiens de notre époque, frères et sœurs, sont difficilement identifiables dans le monde parce qu'ils ont décidé de se confondre au paysage. Les couleurs qu'ils portent ne sont pas claires parce qu'ils ressemblent tellement à monsieur et à madame tout le monde. Je pense à ce missionnaire, Jim Elliott, qui a dit, qui est mort à l'âge de 29 ans pour avoir annoncé l'Évangile, « Le moment venu, vous mourrez. Assurez-vous que c'est tout ce que vous avez à faire. » J'ai déjà connu un homme qui faisait partie de la communauté de ceux qui ne sont plus confus. Ses couleurs étaient claires. Quand il est mort beaucoup trop tôt pour plusieurs. Et le Seigneur n'a pas eu de difficulté à le trouver, parce que c'était le temps du Seigneur de le rappeler à lui. Que Dieu nous aide à vivre en 2019 avec nos cœurs tournés vers le ciel, afin que lorsque notre temps sera venu, nous serons faciles à repérer et prêts à rencontrer le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.